Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié initialement en 2016, puis repris en format poche. Libérer votre cerveau est un essai de vulgarisation situé au croisement des neurosciences, de la pédagogie, du travail et de la réflexion sociale. Idrissa Berkane y propose la notion de neurosagesse, entendue comme un usage plus judicieux des capacités et des limites du cerveau humain. Son propos ne se réduit pas à des techniques de mémorisation ou de concentration. Il défend une thèse plus vaste, les institutions. Les outils et les méthodes éducatives devraient être conçus selon les besoins cognitifs humains, plutôt que demander sans cesse aux individus de se plier à des dispositifs inadaptés. Le livre mobilise des exemples de performance intellectuelle, des métaphores et des références à la neuroergonomie afin de questionner la manière de penser, apprendre et travailler. Son ambition est aussi politique et culturelle, puisqu'il relie le développement des savoirs à la nécessité de produire davantage de discernement collectif. Cet essai se présente donc comme un plaidoyer accessible pour une réforme des conditions de l'apprentissage et de la circulation des connaissances. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la neurosagesse relie connaissance, discernement et responsabilité collective. Le terme de neurosagesse organise le projet intellectuel du livre. Il ne désigne pas seulement une meilleure efficacité mentale, mais une articulation entre connaissances scientifiques, compréhension du cerveau et capacité à orienter les savoirs vers des fins humaines. Berkane part du constat que les sociétés contemporaines accumulent information, innovation et expertise sans que cette abondance garantisse un jugement plus juste ni des choix collectifs plus prudents. Le problème posé est donc qualitatif, savoir davantage ne suffit pas si les conditions de réception, de transmission et de décision restent déficientes. Cette perspective éloigne le livre des manuels classiques de performance personnelle. Les mécanismes cognitifs y servent un questionnement plus large sur l'école, le travail, la politique et la valeur sociale de la connaissance. La sagesse, dans ce cadre, implique de reconnaître les limites de l'attention, de la mémoire et de la motivation, mais aussi de ne pas réduire les personnes à leur rendement mesurable. Cette orientation donne au livre un ton de manifeste. Elle explique aussi pourquoi les propositions débordent le terrain strict des neurosciences et engagent une critique des normes culturelles. Le lecteur y trouve moins un protocole expérimental qu'une invitation à interroger les environnements qui façonnent les usages du cerveau. Deuxièmement, la neuroergonomie invite à adapter les systèmes aux contraintes cognitives. La neuroergonomie constitue le cadre appliqué central de l'ouvrage. Elle renvoie à l'étude des rapports entre le fonctionnement cognitif et les situations concrètes de travail, d'apprentissage ou d'usage des outils. Berkane formule une idée directrice simple, les technologies, les organisations et les méthodes devraient tenir compte du cerveau humain, de ses ressources comme de ses fragilités. Cette inversion de perspective vise les dispositifs qui multiplient sollicitations, distractions, évaluations ou charges mentales sans examiner leur compatibilité avec attention et apprentissage. Les comparaisons employées dans le livre cherchent à rendre ce raisonnement tangible. Donner des prises à un objet mental difficile revient à le rendre plus maniable, comme des poignées facilitent le transport d'une charge lourde. La question n'est donc pas de supposer que chacun doit fournir toujours plus d'efforts, mais de structurer les tâches afin de diminuer les obstacles inutiles. Cette approche peut concerner la présentation d'une information, la conception d'un exercice ou la répartition d'un problème complexe. Elle possède une portée pratique, même si le livre privilégie souvent les principes et les images aux procédures détaillées. Son intérêt est de déplacer la responsabilité. Une difficulté cognitive peut provenir non d'une incapacité individuelle, mais d'une situation mal conçue. Troisièmement, les prodiges servent à distinguer potentiel cérébral et méthode de traitement. Le livre recourt à des calculateurs prodiges, notamment Alexis Lemaire, pour contester une vision figée de l'intelligence. Ces exemples ne démontrent pas que toute personne peut reproduire exactement des performances exceptionnelles. Ils soutiennent plutôt une hypothèse de travail, les écarts observables proviennent en partie des stratégies, de l'entraînement et de la manière de distribuer une charge cognitive entre plusieurs opérations mentales. Berkane insiste ainsi sur le fait que les aptitudes ne peuvent être ramenées à une quantité abstraite de cerveau ou à un classement scolaire. Une tâche peut devenir plus accessible lorsque le problème est découpé, représenté autrement ou associé à des repères plus faciles à manipuler. Cette idée rejoint le thème neuroergonomique de la conception des prises mentales. Elle permet de comprendre pourquoi une bonne méthode peut modifier l'expérience subjective des difficultés sans abolir les contraintes réelles de la mémoire ou de l'attention. Toutefois, le lecteur doit distinguer les exemples spectaculaires des preuves générales. Les prouesses de calcul mental illustrent la plasticité des stratégies, mais ne remplacent pas une démonstration systématique sur tous les apprentissages, dans le livre. Leur fonction principale est argumentative, ils invitent à regarder l'intelligence comme un ensemble de pratiques perfectibles plutôt que comme un capital définitivement distribué. Quatrièmement, la critique de l'école met en cause la notation, la motivation et le droit à l'erreur. Une part importante de l'essai vise le système éducatif, présenté comme trop souvent centré sur le tri, la standardisation et la restitution. Aberkan conteste particulièrement la tendance à confondre la note avec la valeur intellectuelle d'une personne. Une évaluation peut avoir une fonction administrative, mais elle devient réductrice lorsqu'elle enferme durablement un élève dans une identité de bon ou mauvais apprenant. Le livre plaide pour des conditions plus favorables à la curiosité, à la motivation et à l'exploration. Dans cette perspective, comprendre la raison d'un apprentissage et disposer d'un droit à l'erreur sont essentiels. Car la peur de l'échec peut détourner une part des ressources mentales vers la protection de soi plutôt que vers la recherche et la compréhension. Le jeu occupe également une place notable. Aberkan le présente comme un comportement d'apprentissage largement observable chez les mammifères, utile pour expérimenter, simuler et acquérir des compétences sans subir immédiatement les conséquences les plus lourdes de l'erreur. Son argument ne consiste pas à supprimer toute exigence scolaire, mais à réexaminer les méthodes au regard de ce qui favorise réellement l'apprentissage. Cette critique intéressera surtout les lecteurs sensibles au débat sur la créativité, l'évaluation et le sens donné au savoir. En dernier lieu, le savoir est présenté comme une ressource non rivale de l'économie humaine au-delà du cerveau individuel. Libérer votre cerveau développe une vision de l'économie de la connaissance. Aberkan souligne que le savoir possède une propriété particulière, son partage ne le détruit pas mécaniquement chez celui qui le transmet. À la différence de nombreuses ressources matérielles, une idée, une compétence ou une méthode peut circuler, être enrichie et produire de nouveaux usages. Cette caractéristique fonde son plaidoyer pour une société qui accorde davantage de valeur à l'éducation, à la transmission et à la créativité. Le raisonnement relie ainsi la qualité des apprentissages à des enjeux économiques et sociaux. Une organisation qui traite les individus comme de simples exécutants risque de gaspiller des capacités de résolution, d'invention et de coopération. Inversement, un cadre favorisant la compréhension, la passion pour un domaine et le partage des connaissances peut élargir les possibilités d'action collective. Le livre ne fournit pas un modèle économique complet. Mais il avance une idée nette, le développement ne devrait pas être évalué uniquement par la production immédiate ou la compétition des diplômes. Il devrait aussi prendre en compte la capacité d'une société à faire croître ses compétences sans épuiser ses membres. Cette extension du propos explique le sous-titre ambitieux sur l'école et la société, ainsi que le caractère transversal de l'essai. En conclusion, Libérer votre cerveau s'adresse principalement aux lecteurs intéressés par les liens entre apprentissage, créativité, fonctionnement cognitif et transformation des institutions. Des enseignants, parents, étudiants, responsables d'équipe ou curieux des sciences cognitives y trouveront des pistes pour questionner les effets de la notation, de la surcharge mentale, de la démotivation et des environnements de travail mal adaptés. Le bénéfice principal du livre tient moins à un ensemble de techniques immédiatement applicables qu'à un changement de cadrage, une difficulté intellectuelle ne doit pas être attribuée trop vite à une insuffisance personnelle, car elle peut révéler une méthode, un outil ou une organisation inadéquat. Cette idée peut nourrir une réflexion concrète sur la manière de présenter un problème, autoriser l'erreur ou rendre une tâche plus intelligible. L'ouvrage se distingue des guides de développement personnel centrés sur la productivité par son ambition sociale. Il relie la question de mieux utiliser son cerveau à une critique de l'école et à une défense de l'économie de la connaissance. Son style, fondé sur les analogies, les exemples et les prises de position, le rend accessible à un large public. Il convient néanmoins de le lire comme un essai engagé plutôt que comme un manuel scientifique exhaustif. Des lecteurs ont apprécié son énergie, ses métaphores et son invitation à repenser l'éducation, tandis que d'autres ont relevé un manque de structure, de rigueur ou de recommandations opérationnelles. Cette tension fait sa singularité, le livre vaut surtout comme déclencheur de débat et comme plaidoyer pour des conditions d'apprentissage plus humaines, plus ludiques et plus attentives aux réalités cognitives. Si vous souhaitez soutenir Idriss Aberkan, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.